très belle musique, Patricia Platner. La musique fait partie du monde aussi de Nicolas Bouvier. Il y en a bien d'autres qu'on découvre au cours du film. C'est aussi lui qui les a choisis par rapport à ses coups de cœur et la place de la musique dans sa vie.
J'ai choisi parmi ses musiques. On s'est quand même laissé une place assez distincte. Lui, il m'a offert beaucoup et moi, j'ai choisi parmi ce qu'il m'a offert parce qu'il avait beaucoup à offrir.
Alors, pour nos auditrices et nos auditeurs, nous rappelons que vous pouvez voir Le Hibou et la Baleine. Allez découvrir le sens du titre, on ne va pas vous le dire ici. Le Hibou et la Baleine, un portrait de Nicolas Bouvier réalisé par Patricia Platner au cinéma Scala à Genève. Dans une heure un peu particulière, il faut peut-être le préciser pour sûr de ne pas rater.
À 18h10, mais je conseillerais à tous ceux qui nous écoutent de vérifier l'heure dans le journal. Dans les jours qui suivent.
Voilà, merci Patricia d'être venue.
Je vous en prie, c'est un grand plaisir.
Ce sera tout à fait comme à la radio. Ce ne sera rien, rien que de la musique. Ce ne sera rien, rien que des mots, des mots. Des mots comme à la radio. Ça ne dérangera pas, ça n'empêchera pas de jouer aux cartes. Ça n'empêchera pas de dormir sur l'autoroute. Ça n'empêchera pas de parler d'argent. Ce sera tout à fait comme à la radio.
Bonsoir, Radio Pleine Lune, 93.8 MHz. Dans quelques instants, nos nouvelles, suivies des rendez-vous et coups de cœur de Marjolaine. À tout de suite. Radio Pleine Lune, 93.8 MHz, Ondes Femmes Radio Zone, nos nouvelles. En France, la prise d'otage d'une classe de maternelle à Neuilly, qui s'est terminée par la mort du preneur d'otage Eric Schmidt, a montré avant tout le courage de l'agente féminine. Ce sont en effet des femmes et des petites filles qui, pendant deux jours, ont fait face à Eric Schmidt. C'est avant tout Laurence Dreyfus, l'institutrice, qui a choisi de rester avec ses élèves alors que le preneur d'otage l'a laissée libre de ses mouvements. Dès le début du drame, elle calme les enfants et pendant 38 heures, elle les fait dessiner, chanter, elle les nourrit, elle les couche, les rassure. C'est ensuite Evelyne Lambert, le capitaine, comme disent les Français, des pompiers qui s'est fait passer pour un pédiatre ou une pédiatre. Dès le début de la prise d'otage, Eric Schmidt a demandé à un médecin pédiatre, une femme a-t-il précisé. C'est Evelyne Lambert, 26 ans, spécialiste des interventions d'urgence, la seule femme médecin des pompiers de Paris qui y va. Jusqu'à la fin, elle va s'occuper des enfants, gagner la confiance du ravisseur. Et c'est elle qui, en poussant très discrètement la caméra, a pu faire savoir aux policiers du raid que le ravisseur s'était endormi. Et puis, c'est finalement les enfants otages et ceux qui sont restés, ce ne sont que des petites filles. Tous les garçons ont été libérés et des 21 enfants du départ, c'est seulement 6 fillettes qui sont restées à l'arrivée, car elles étaient, selon l'institutrice, les plus à même à faire face au stress et au danger. Et je pense que ça laissera peut-être une image à ces enfants que les femmes avant tout, c'est le courage. Au Maroc, arrestation de Zulika Al-Akhdari, épouse d'un prisonnier d'opinion et membre de la direction de l'Association des droits de la personne. La liberté provisoire lui avait été refusée. Elle est en prison avec son bébé de 45 jours pour avoir, je cite, « dénoncé les mesures très dures dont sont frappés les prisonniers politiques au Maroc ces derniers temps ». Alger interdit la tenue islamique dans les administrations. Les administrations et les entreprises publiques sont donc interdites de tenue islamique sous peine de sanctions allant jusqu'à la révocation. Il s'agit d'un texte d'exception qui vise essentiellement ce qu'on appelle les camis, c'est-à-dire la longue robe blanche islamique et la barbe, ainsi que la tenue des résistants afghans. On ignore encore s'il s'applique au hijab porté par les femmes. En Iran, 80 femmes mal voilées ont été arrêtées. 80 jeunes femmes ont été arrêtées à la Foire internationale du livre à Téhéran. Les forces de l'ordre ont jugé que, je cite, leur tenue et leur comportement étaient non conformes aux critères islamiques, fin de citation. Sont considérées comme mal voilées les femmes trop maquillées, dont le foulard ne recouvre pas entièrement les cheveux, ou qui portent sous leur menton un pantalon ou une jupe trop courte. Depuis la révolution islamique de 79, les femmes arrêtées pour ce motif sont passibles de flagellation, mais sont souvent relâchés après, je cite, des remarques verbales. C'est Dieu que les femmes doivent accuser de leurs problèmes, pas les hommes, a déclaré Bible en main le vice-président du Zimbabwe, Joshua Nkomo, âgé de 75 ans, lors d'un séminaire sur le développement. Face à une soixantaine d'Africaines réunies à l'Institut du Zimbabwe d'administration publique et de gestion, une soixantaine d'Africaines interloquées, il a insisté sur le fait que, je cite, « le problème des femmes n'est pas un problème causé par les hommes, c'est un problème causé par le Créateur lui-même », ajoutant que l'Ancien Testament montrait clairement que quand Ève avait été créée pour le solitaire Adam, elle avait causé les premiers problèmes en le poussant à manger le fruit défendu. Cette histoire de pomme n'est vraiment pas terminée. Ces problèmes sont ceux que rencontrent les hommes et les femmes encore aujourd'hui, a conclu Joshua Nkomo, qui a dû confondre administration publique avec Église. Environ 100 millions de mineurs, en majorité des garçons, vivent dans les rues, rapporte l'OMS, avec les risques que cela suppose. En Bolivie, on les appelle les termites, au Cameroun, les poussins, au Vietnam, les poussières de vie, en Colombie, les puces, au Pérou, les piranhas. Les pays développés ont leur part de misère avec 20 millions de jeunes concernés. C'est l'Amérique latine qui détient la palme avec 40 millions d'enfants des rues, suivis de l'Asie et de l'Afrique. En Mire, 10 villes particulièrement sensibles, Manille, Tegucigalpa, en Honduras, Le Caire, Alexandrie, Bombay, Rio de Janeiro, la capitale de la Zambie, Mexico, Toronto et Montréal. Pour leur venir en aide, l'OMS compte lancer des programmes de réinsertion, démarrage en Zambie et au Honduras. Pour la première fois, la France a confié le commandement d'un bateau à une femme officier. Il s'agit de Dominique Magne, 30 ans, qui va diriger l'Atos, une vedette basée à Bayonne, qui est chargée d'assurer la sécurité du champ de tir des Landes, d'où sont censés partir les missiles. Cette décision l'a surprise, elle qui avait toujours clamé sur les ponts qu'elle ne voulait pas être commandant, ou plutôt pacha, comme disent les marins en parlant de leur chef. En revanche, elle s'est battue dans les années 80 pour avoir le droit d'embarquer. L'été prochain, deux frégates anti-sous-marins accueilleront chacune 21 officières et matelotes qui devront s'intégrer à des équipages de plus de 200 hommes. Voilà. Guerre du catéchisme en Pologne. Les parents polonais ne seront plus obligés de demander par écrit l'exemption de leur enfant du cours de catéchisme scolaire. Et l'évêque n'aura plus le droit d'éliminer les catéchistes qui lui déplaisent. Ainsi en a décidé le tribunal constitutionnel de Pologne. Cette concession aux partisans de la laïcité a beau être maigre, les milieux catholiques enragent. Et pourtant les juges n'ont pas touché au gain majeur de l'Église, la présence de crucifix dans les classes, la prière avant et après les cours, l'inscription de la note de catéchisme au tableau de fin d'année et la rémunération par l'État des catéchistes n'a pas été remis en cause. À Paris, dans le textile, les patrons entraînent leurs ouvrières à manifester contre le Made in ailleurs. Les patrons du textile ont défilé contre la délocalisation de la production vers des pays à faible coût de main-d'œuvre. De nombreuses femmes salariées les accompagnaient malgré l'opposition des syndicats qui dénoncent l'hypocrisie des industriels, car dans ce secteur, disent-ils, presque tous délocalisent. À Saint-Cyr-sur-Loire, l'entreprise SKAF invente le licenciement minute. 35 salariés de l'usine du groupe SKF de Saint-Cyr-sur-Loire, des femmes pour la plupart, avaient pris leur poste lundi matin. Elles ont été convoquées par la direction qui leur a signifié leur licenciement immédiat et l'obligation de quitter l'établissement dans l'heure. Il venait chercher un ouvrier dans les ateliers, dit un témoignage, l'amenait au chef du personnel qui lui annonçait son licenciement, puis un taxi l'attendait, direction l'antenne de reclassement. Il revenait alors chercher une autre ouvrière ou un autre ouvrier. C'est ce que la direction appelle un plan social. L'usine de Bangkok, l'usine Thaï incendiée, enfermait ses employés. 240 morts, 547 blessés. Le dernier bilan de l'incendie qui a détruit les quatre bâtiments de l'usine de jouets Kader Industrial à Bangkok lundi dernier est provisoire. Les autorités thaïlandaises craignent que plusieurs centaines de corps parmi les 4000 ouvrières présentes soient pris sous la masse de béton qui se sont effondrés en quelques minutes. La plupart des victimes étaient des femmes. Certaines d'entre elles utilisaient des enfants pour les aider dans leur travail. Quand les premiers cris au feu ont retenti dans le premier des quatre bâtiments de l'usine, les contremaîtres et les gardes ont maintenu les portes du bâtiment bloquées. La direction, disent-ils, nous avait demandé d'enfermer les ouvrières afin qu'elles ne volent rien et qu'elles ne cherchent pas à quitter l'usine, a raconté l'un des gardiens. Les corps des ouvrières ont été retrouvés empilés devant les portes verrouillées. Beaucoup auraient pu s'échapper si on nous avait permis de quitter le bâtiment. Sur le champ a témoigné une ouvrière rescapée. En février dernier, lors d'un incendie vite maîtrisé celui-là, les ouvrières qui avaient quitté affolées leur poste du travail avaient été réprimandées par la direction. Toujours à propos de cet incendie, la Confédération internationale des syndicats libres, la CISL, a exigé hier une enquête urgente sur les causes de l'incendie de l'usine de Bangkok. La majorité des victimes sont des femmes, nombre d'entre elles avaient emmené leurs enfants à l'usine et ils sont morts parce qu'elles ne pouvaient s'offrir de crèche ou de garde d'enfants, a affirmé le comité féminin de la CISL. Le gouvernement thaïlandais n'a pas réussi à mettre le droit du travail du pays en conformité avec les règles internationales de sécurité, de santé et du travail, a déclaré la CISL dans un communiqué. En Albanie, 11 ans de prison pour Madame Oksha, condamnée pour dilapidation de biens publics, la veuve de l'ancien président écope en appel de 2 ans de plus. Veuve de celui qui dirigea d'une main de fer l'Albanie de 1946 à sa mort en 1985, Nexim J. Oksha, j'espère que je prononce bien son nom, va rejoindre une prison de Tirana où elle partagera sa détention avec une trentaine de prisonnières. Oh. En Suisse, Christiane Brunner primée pour son combat féministe. La syndicaliste genevoise se trouve ainsi confirmée dans son rôle de meneuse de la cause des femmes. Christiane Brunner a reçu à la mairie de Zurich le prix de l'Association suisse pour les droits de la femme, un prix rare. On ne l'avait décerné qu'une fois, en 1984, à Leni Robert, en hommage à son indépendance d'esprit. Simone Chapuis, la présidente romande de l'Association des femmes, voit en Christiane Brunner la digne fille de ces trois grandes féministes genevoises que furent Marie Goeg, fondatrice en 1866 d'une association revendiquant le suffrage féminin, d'Émilie Gourde et d'Emma Camacher, la première présidente en 1865 du Grand Conseil genevois. Durant toutes ces dernières semaines, a déclaré Christiane Brunner, j'ai appris trois choses. Si on a bien le droit d'être une femme, on n'a en revanche pas encore le droit d'être féministe. L'honnêteté n'existe pas dans le monde politique. Et troisièmement, la solidarité entre femmes, elle, existe vraiment. Et c'est cela le plus beau. Toujours en Suisse, l'âge de la retraite divise les femmes de Suisse alémanique et les romandes. Les Suisses alémaniques sont nettement moins réticentes à une élévation de l'âge de la retraite des femmes que les romandes. La différence entre Suisse alémanique et romande s'expliquerait peut-être par le fait que le travail des femmes est beaucoup plus répandu en Romandie qu'outre-Sarine. 61% des romandes sont donc pour le maintien de l'âge de la retraite à 62 ans, contre seulement 46% des alémaniques. Cette opinion est majoritaire non seulement chez les romandes, mais aussi parmi les femmes seules et celles qui travaillent à plein temps. Ça montre bien que celles qui travaillent ont envie de s'arrêter à 62 ans, alors que celles qui travaillent pas ou à mi-temps, elles sont plus facilement convaincues. Des deux côtés de la Sarine, les femmes interrogées sont d'autre part favorables à l'institution de quotas, assurant la présence d'au moins 40% des représentants de chaque sexe dans les autorités politiques. Et à propos du renouveau du militantisme féministe, 81% des femmes sont d'avis qu'il ne s'agit pas d'une euphorie passagère, mais d'un phénomène de longue date. Un diplomate accusé d'exploiter son employé. Le syndicat Sans Frontières dénonce les agissements d'un diplomate de la mission du Qatar. Selon son président, celui-ci exploitait son employé, une Indienne, qui l'employait à son domicile. La femme travaillait 16 heures par jour comme domestique de maison pour un prétendu salaire de 500 rials par mois, soit 200 francs. Mais bien sûr, elle n'a jamais été payée. Elle a été en plus mal nourrie et elle s'est fait brutaliser par ses employeurs. Le 3 mai, de peur d'être maltraitée, elle s'est enfuie de son domicile sans papier, sans argent, et elle a été finalement recueillie par la mission indienne qui jamais n'a pu avoir retrouvé les papiers que ce diplomate du Qatar n'a jamais rendu. Entre-temps, il est parti en vacances au Qatar avec sa famille. Mère de deux enfants restés en Inde, Madame Pushparajeshvari n'a donc rien si ce n'est une dette de 16 000 roupies, soit plus d'une année de salaire, contractée pour payer l'agence qui en Inde lui a trouvé ce poste dans la famille Altani. Bien qu'employée au noir, elle ne peut rien intenter devant le prud'homme car son contrat a été conclu au Qatar. Selon le syndicat Sans Frontières, la mission du Qatar est connue sur la place pour ses mauvais traitements envers le personnel de maison. Une employée indienne au service de l'ambassadeur actuel était arrivée à la mission de l'Inde avec des brûlures de cigarettes sur les bras. Une domestique africaine habitant avec Madame Pushparajeshvari s'est enfuie quelques jours avant elle. Réfugié à Genève, un jeune Philippin dénonce les sévices d'un pédophile argovien. Il a porté plainte contre cet argovien qui l'aurait attiré en Suisse pour abuser de lui. L'homme s'était d'ailleurs vanté d'avoir eu des esclaves sexuels. Enfant des rues, Edwin a 14 ans lorsqu'il rencontre l'argovien à Manille qui abuse déjà de lui dans un hôtel. Le pédophile le convainc ensuite de le suivre en Suisse, lui faisant miroiter la possibilité de l'adopter et de lui faire faire des études. Arrivé à Harburg en fin 88, il subi des sévices sexuels, diverses violences. Il a déjà tenté d'expliquer sa situation à la police argovienne à ce moment, qui est venue faire un contrôle, mais les fonctionnaires semblent ne pas comprendre son anglais. Après, il s'est enfui et il a été rapatrié dans son pays. Entre-temps, le pédophile argovien a acquis une certaine notoriété. Filmé par une caméra cachée pour l'émission de télévision de TF1, il s'est vanté d'avoir fait sortir de leur pays 7 mineurs philippins sous couvert d'adoption. Il a également reconnu avoir eu un esclave sexuel chez lui. Entre-temps, le jeune philippin est revenu à Genève et, souhaitant que son abuseur puisse être puni, il a déposé plainte auprès du ministère public argovien pour attentat à la pudeur des enfants. En attendant, à Arbourg, le pédophile est toujours en liberté. L'OMS propose un programme pour freiner ou arrêter l'excision des femmes africaines. L'Organisation mondiale de la santé a fait un nouveau pas pour tenter de mettre fin aux excisions dont sont victimes la majorité des femmes dans des pays comme le Soudan, l'Éthiopie, le Nigeria, la Somalie. Le directeur du département de santé maternelle et infantile de l'OMS a déclaré que ces mutilations génitales, multipliées par 3 ou 4, le nombre des morts-nés doublaient le risque de mort en bas âge et développaient les risques d'hémorragie, de tétanos ou de contamination. Par le sida. Les lois pour interdire l'excision doivent s'accompagner de programmes d'éducation, précise l'OMS. Les malades vont pouvoir connaître leurs droits. Le Forum Santé, qui regroupe une quinzaine d'organisations syndicales et des associations de professionnels et d'usagers de la santé, a présenté la brochure « Droits des patients ». Émaillée de dessins de XM, on peut donc comprendre et savoir tous ces droits. Entre autres, la question des erreurs médicales et des problèmes en psychiatrie sont mentionnés. La brochure s'appelle « Droits des patients ». Elle peut être commandée au Forum Santé, case postale 2004, 1211 Genève. Ça coûte 2 francs. Lundi à Genève a été un mauvais jour pour des cambrioleuses et des voleuses à la tire. La police a enregistré un nombre inhabituel de vols commis par des femmes, ou plutôt il en a arrêté plusieurs. Ainsi, deux jeunes femmes ont été surprises en flagrant délit de vol. Elles tentaient de dérober une veste de cuir. Dans un magasin de la rive droite, c'est une étudiante qui a été prise la main dans le sac. Enfin, une employée de commerce a été surprise en flagrant délit de vol dans une pharmacie. Festival de Cannes, parlons un peu de culture. Cette année, le festival a été marqué par une grande remontée des productions féminines, puisque finalement, elles atteignent 16% des réalisatrices au programme, sans compter celles qu'on pourrait trouver au marché sur les quelques 400 titres présentés. C'est surtout l'Australie qui est en tête, puisque 100% de la délégation est composée de femmes. Il s'agit de Campion, McCanns et Moffat. En parlant de Jeanne Campion, son film Une leçon de piano risque d'être le film qui gagnera la Palme d'Or. Il s'agira donc de la première femme qui, depuis 1946, gagnera une Palme d'Or au Festival de Cannes. Rappelons que Jeanne Campion a fait deux magnifiques films auparavant. Il s'agit de Sweetie et d'Un ange à ma table qui se donne actuellement dans les cinémas à Genève. Pour terminer, j'aimerais ouvrir une nouvelle rubrique, la rubrique de la mauvaise foi ou de l'amalgame pernicieux. En effet, actuellement, où l'histoire, entre autres, de la dernière guerre s'estompe un petit peu dans la mémoire et en tout cas chez les jeunes est peut-être moins présente, on utilise les grands noms et les grands mouvements et les grandes luttes de l'époque à n'importe quelle sauce. Alors, le chapeau de la mauvaise foi, on pourrait le donner, entre autres, à Le Pen, qui en appelle à la résistance contre l'invasion émigrée. Alors là, il fait un magnifique amalgame. Après avoir annexé Jeanne d'Arc, le Front National a décidé donc de revendiquer haut et fort une filiation directe entre le lepénisme et la résistance durant la guerre contre le nazisme. C'est durant un colloque sur le thème l'histoire en question de 40 à 93. Lors de la clôture des travaux, Jean-Marie Le Pen est venu exhorter l'assistance à, je cite, combattre aujourd'hui comme hier ceux qui ont choisi le camp de l'invasion étrangère, tout en lançant un appel à la réconciliation nationale. Plus explicite, l'un des intervenants avait donné peu avant le mode d'emploi du colloque. Nous devons réconcilier tous les vrais Français, ceux qui croyaient au général de Gaulle et ceux qui croyaient au maréchal Pétain, qui, ne l'oublions pas, a reçu à bras ouverts les Allemands, les envahisseurs étrangers de l'époque, les a même aidés tout le long à supprimer résistants et juifs. La collaboration active de la donc selon les conclusions de ce colloque, le thème de la collaboration avec l'envahisseur est d'une brûlante actualité pour peu qu'on l'admette aujourd'hui comme hier que la France est occupée, victime d'une invasion molle, silencieuse, mais pour l'instant pacifique, on ne sait jamais. Cette entrée massive des étrangers réalisée contre la volonté même des Français serait facilitée par les nouveaux collaborateurs de la classe politique auxquels s'oppose l'authentique attitude de résistance du Front National. Bien sûr, la collaboration active de la droite, de l'extrême droite avec l'occupant allemand, leur antisémitisme militant hier comme aujourd'hui n'était pas à l'ordre du jour. Dans le même style d'amalgame magnifique, c'est le cas de la justice. C'est une affaire qui agite la justice, alors que Paris réexamine le dossier d'une Allemande extradée. La chambre d'accusation parisienne décidera du sort de Siegelinde Hoffmann, militante de la fraction Armée Rouge, détenue en Allemagne depuis 13 ans. Âgée de 50 ans, elle devrait être libérée dans 2 ans après avoir purgé au jour près la peine à laquelle elle a été condamnée. Sauf si les magistrats français en décident autrement en acceptant d'étendre son extradition de 80 à d'autres affaires. Pour trancher, il dispose désormais d'une documentation étonnante. Dans ce dossier européen, l'argumentaire juridique des autorités allemandes est assez troublant. Redoutant la prescription, il demande, en cas de besoin, à ce que ces affaires soient considérées comme crimes contre l'humanité, comme les crimes nazis. Ainsi, l'assassinat de Hans-Martin Schleyer, patron des patrons allemands, auquel la RAF reprochait entre autres son passé nazi, relèverait de cette catégorie. Et les magistrats qui aujourd'hui vont statuer sont ceux qui ont délivré un non-lieu en faveur de Paul Touvier. Et puis, dernière petite amalgame, un peu moins grave, mais dans le même genre, c'est le libéral Olivier Vaudeau qui appelle à la résistance pour lutter contre les limitations de trafic prônées par Bernard Ziegler. Ils sont exaspérés. La Fédération économique du centre-ville a lancé une pétition et ce dernier a donc encouragé à faire de la résistance en comparant Ziegler à Pétain. Voilà, c'était les nouvelles 93.8 MHz en femme Radio Zone.
動きがありまして、その元々